À notre espérance ce matin par cette doctrine, Seigneur, de la persévérance des saints. Seigneur, c'est toi qui nous soutiens dans notre foi. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as pourvu au moyen du salut. C'est toi, Seigneur, qui nous soutiens. Comme tu soutiens l'univers, Seigneur, tu soutiens tes élus. Tu les portes jusqu'à la fin, Seigneur, fidèlement. Ta promesse a été donnée, ta parole, Seigneur, est engagée. Et toi, tu ne mens point. Tu ne te parjures point, Seigneur. On te demande, Père, de bénir nos cœurs ce matin, de rendre ces choses claires dans notre esprit, afin qu'on puisse être davantage encore des adorateurs reconnaissants pour ce merveilleux salut, Seigneur, que tu nous as acquis. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, simplement vous mentionner, il nous reste deux leçons. Je l'ai mentionné dans le courriel. Pour ceux qui ne reçoivent pas le courriel, je le mentionne ici. Il nous reste deux leçons. En réalité, la semaine prochaine, on a le spectacle des enfants de 9 à 10. Alors, je vous invite à venir pour encourager les enfants de l'Église qui ont travaillé fort. Donc, ça, c'est de 9h à 10h. Et puis, l'autre semaine après, on va faire une dernière leçon sur le salut. Malheureusement, là, dans mon plan, là, je saute tout le bloc sur l'Église puis le retour du Seigneur. Mais j'avais trop de matière et... Ce qu'on va faire, c'est que l'année prochaine, je vais faire un survol de la Bible au complet sur l'année, de la Genèse à l'Apocalypse en un an. Puis l'année d'après, je vais faire un survol des doctrines sur un an. Donc, dans 2 ans ou dans 1 an et demi, si jamais vous voulez, vous pourrez réembarquer. On va faire les doctrines au complet en 3 sessions, ce qui va me permettre de vraiment tout couvrir. Mais on avait beaucoup de matière. Alors, ce que je fais pour terminer le cours, ce matin et dans 2 semaines, on est sur le salut. D'accord? Et encore là, il y a un aspect du salut qu'on ne couvrira pas parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Mais je veux vous encourager, je l'ai mentionné déjà à quelques reprises dans le cours, si jamais ça vous tente de pousser vos recherches plus loin, la théologie systématique de Grudem est en français, publiée chez Excelsis. C'est cher, c'est 95 $ là, si vous n'avez pas d'escompte, mais ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment, vraiment une bonne ressource. Puis, Stéphane Chartrand, qui est à l'église ici, est rendu au chapitre 13 ou 16. Il est en train de lire ça tranquillement. Il dit « La seule chose qui me ralentit un peu, c'est tous les versets à mémoriser à la fin de chaque chapitre. » J'ai aimé ça, c'est génial. OK, fait que je veux vous encourager aussi à avoir une démarche personnelle dans tout ça. Alors, ce matin, on parle de la persévérance des saints. Juste un petit instant. Alors, la persévérance des saints. Parfois, c'est appelé aussi l'assurance du salut, la certitude du salut. Je suis assez d'accord avec Grudem que la perspective biblique est mieux représentée par l'expression « la persévérance des saints », c'est-à-dire que Dieu va soutenir ses élus jusqu'à la fin pour qu'ils persévèrent. Et on va voir ensemble un petit peu la nuance entre les deux à l'intérieur de la leçon. Alors, deux questions qui illustrent un peu le sujet où on s'en va. Un vrai chrétien peut-il perdre son salut? Comment savoir si nous sommes vraiment nés de nouveau? Définition, la persévérance des saints signifie que tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau seront gardés par la puissance de Dieu et persévéreront dans la foi jusqu'à la fin de leur vie. Inversement, seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont vraiment nés de nouveau. Ce n'est pas une espèce de raisonnement circulaire qui ne tient pas, c'est que... Il va y avoir des évidences, je ne sais pas si je suis en train de prendre un anglicisme, mais il va y avoir des évidences claires dans la vie d'un individu qu'il est chrétien jusqu'à la fin. Mais nous avons des promesses dans la parole que Dieu va nous soutenir jusqu'à la fin, dans cette persévérance-là, jusqu'à la fin de notre course. D'accord? C'est un point de doctrine qui a divisé pas mal les familles d'Église évangélique. D'accord? Puis, ça revient à la question de l'élection. D'accord? C'est deux sujets qui sont généralement étroitement reliés. Évidemment, je suis un petit peu sarcastique si je dis ça comme ça. Surprenamment, il y a plusieurs personnes qui n'acceptent pas l'élection pure, mais qui croient dans l'assurance finale, la persévérance finale des saints. D'accord? Qui est quand même une doctrine importante. Si on peut avoir la certitude qu'on ne peut pas perdre notre salut, c'est très, très, très rassurant. Mais généralement, historiquement, ceux qui croient dans l'élection sur la base de la préscience de Dieu. Si vous vous rappelez, là, Wesley, la position arménienne, on est élu parce que Dieu savait d'avance qui accepterait. Historiquement, ces gens-là ne croient pas dans l'assurance du salut, ne croient pas dans la persévérance finale des saints. Ça veut dire, historiquement, ils croient qu'un chrétien peut perdre son salut, puis se reconvertir, perdre son salut, se reconvertir. D'accord? Ça, c'est la position wesleyenne, arminienne, historiquement. La position réformée, qui a été le plus clairement exprimée par Jean Calvin, la position réformée, généralement, va associer les deux opposés de ça, c'est-à-dire nous sommes élus sur la base d'un choix pur et unique de Dieu. C'est un choix de grâce pure dans lequel il n'y a aucune prédisposition dans l'homme à choisir ou à accepter l'Évangile. Et Dieu va supporter ses élus jusqu'à la fin. Donc, c'est impossible de perdre son salut si effectivement on a été élu, on a été sauvé, on va être préservé. Historiquement, c'est comme ça. Si vous prenez le temps de les lire au moment où ces doctrines-là ont été le plus clairement formulées, ça a toujours été des positions qui allaient de pair. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord? Alors, par exemple, de plus en plus, par exemple, les assemblées Pentecôte, je vais prendre des questions après, les assemblées Pentecôte, pentecôtistes, tout ça, viennent généralement de la branche wesleyenne. Et donc, historiquement, encore une fois, chez les assemblées Pentecôte, généralement, on ne va pas croire à une élection pure. On va croire que Dieu a élu sur la base de la préscience, mais on va croire aussi que le chrétien peut perdre son salut. D'accord? Le terme qu'ils vont utiliser, c'est un chrétien rétrograde. Mais pour eux, dans leur esprit, c'est il était sauvé, il avait l'esprit, il n'est plus sauvé, il n'a plus l'esprit. On lui reprêche l'Évangile et c'est possible qu'il soit sauvé. D'accord? Je simplifie, là. Mais donc, historiquement, généralement, les assemblées Pentecôte, c'était cette position-là. Les assemblées ménonites, c'était comme ça. Les assemblées méthodistes, les assemblées réformés, baptistes, les assemblées des frères sont généralement réformés dans leur théologie. Ça veut dire qu'ils vont croire dans une élection pure et puis ils vont croire dans la persévérance finale des saints ou l'assurance du salut, généralement. Dans les 20-25 dernières années, avec le fait que toutes les familles évangéliques échangent beaucoup plus, discutent beaucoup plus, c'est moins tranché au couteau, ces positions-là. Et donc, j'ai jamais jasé avec Claude Houde pour savoir si Claude croit dans une élection pure, mais je sais qu'il ne croit plus dans la perte du salut. Il n'enseigne plus la perte du salut. Donc, il y a beaucoup d'assemblées Pentecôte qui enseignent de moins en moins la possibilité de perdre son salut. Est-ce que ça veut dire qu'il croit aussi dans une élection qui est seulement sur la base d'un choix unique de Dieu? Je ne saurais pas le dire. Et vous allez trouver des pasteurs dans les assemblées baptistes qui ne sont pas convaincus de l'élection pure, puis qui continue à croire dans l'assurance du salut. D'accord? Pour quelqu'un qui a une position réformée comme la mienne, c'est simple. Toute cette question-là, ces deux questions-là se tranchent sur la base de la souveraineté de Dieu. Dieu étant souverain, Dieu élit, Dieu attire, Dieu convertit, et puis Dieu garde. Ça, c'est la position réformée. D'accord? Et l'homme collabore dans tout ça volontairement, de manière responsable. C'est clair aussi dans les Écritures, puis j'ai une tension que je n'arrive pas à expliquer simplement avec ma petite intelligence à moi, mais c'est ce que je vois dans les Écritures. Question?
Peut-être qu'on a déjà parlé parce que j'ai manqué beaucoup de cours, là, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, Dieu a décidé de me sauver, malgré le fait que j'étais dans le monde, puis qu'il ne sauve pas l'autre à côté? Là?
Parce qu'il a décidé de déverser sa grâce sur toi. Tu as deux options. Dieu a regardé dans l'avenir, puis il a dit, si j'exposais l'Évangile à Diane, Diane dirait, ah oui, ça c'est bon pour moi. Ou puis Dieu a vu dans l'avenir que s'il présentait l'Évangile à quelqu'un d'autre, la personne a dirait non. Puisque toi, tu dirais oui, c'est une de mes élus. C'est pas ma position, c'est pas ce que je comprends dans les Écritures. Je pense que Dieu, dans sa grâce, a décidé qu'il n'allait pas uniquement faire justice à tous les hommes et tous les damner, mais qu'il allait en sauver un certain nombre. Pourquoi? C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est parce que tu ne le méritais pas, puis Dieu est bon. Pourquoi toi plus qu'un autre? Parce que j'ai aucune autre raison. Mais là, je t'ai donné un petit résumé parce que tu n'étais pas là effectivement quand on a traité ça. Il faudrait que tu aies écouté la leçon pour avoir la plus longue réponse. OK. Alors, donc c'est ça. J'ai mentionné aussi là, que cet aspect-là du salut, la persévérance des saints, c'est souvent appelé l'assurance du salut ou la sécurité éternelle, d'accord? Alors, c'est de ce sujet-là dont on parle ce matin. Qu'est-ce que cette position-là, qu'est-ce que cette doctrine-là affirme? En fait, je vais vous lire ma définition. Est-ce que je l'ai déjà lue? Oui, je l'ai lu. Ah, tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau persévéreront jusqu'à la fin. Voici ce que cette position affirme. Tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau persévéreront jusqu'à la fin. Et on a plusieurs versets dans les Écritures qui nous présentent ça, des versets qui sont généralement bien connus sur cette question-là. Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel, c'est Jésus qui parle, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, ce qu'on voit dans ce passage, c'est l'engagement que Christ prend envers le Père et la dynamique entre le Père et le Fils. D'accord? Dans Jean, là, je vous cite ici deux passages, Jean 6, 38 puis Jean 10, 27. Ce sont deux passages qui nous parlent de la souveraineté de Dieu le Père, de la souveraineté de Dieu le Fils. Ce sont deux passages qui nous parlent du plan des desseins de Dieu et de l'accomplissement que Christ fait de ses desseins. Ces deux passages-là nous parlent plus d'une transaction entre Dieu le Père et le Fils que d'une transaction entre Dieu et l'homme. D'accord? Et ça, c'est assez fort dans le passage, dans les deux passages, en fait. Donc, Dieu a des desseins, Dieu a des projets pour le salut de personnes. Il donne ces personnes-là, il confie ses âmes à Christ et Christ s'engage à ne pas les perdre. Et c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et Christ. Alors, je mentionne la dernière phrase de mon petit paragraphe au milieu. Notre confiance et notre espérance ne reposent pas sur notre capacité à persévérer, mais sur la capacité de Jésus-Christ à nous préserver jusqu'à la fin. Un autre passage important sur la persévérance des saints, Jean 10, 27 à 29. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc ce qui est fort encore une fois dans ce passage-là, c'est la souveraineté de Dieu, c'est la souveraineté de la Sainte Trinité. Ce sont des desseins que Dieu a. Ce sont des projets que Dieu a pour les hommes. Dieu donne des individus à Christ. Et Christ, l'expression en anglais, « over my dead body », non, il n'y a pas personne qui va les arracher à Christ. Maintenant, certaines personnes, OK, le texte est très clair. Si Dieu m'a donné au Fils, je suis un chrétien, je suis dans la main de Christ. Il n'y a personne qui peut m'arracher de sa main. Ceux qui doutent de l'assurance du salut, la persévérance finale des saints, vont dire, OK, personne ne peut m'enlever à Christ, mais moi, je peux sortir. Moi, je peux quitter sa main, moi, je peux quitter sa protection. Donc, ce que Jésus serait en train de dire ici, c'est que vous n'avez pas à craindre le diable. Comme Paul le déclare ailleurs, il n'y a aucune domination, aucune... Bon. Vous n'avez pas à craindre personne, personne ne va pouvoir vous arracher. Il n'y a pas un homme qui va venir avec une fausse doctrine, qui va venir vous convaincre que vous êtes dans quelque chose d'erroné puis qui va vous arracher. Mais vous, par contre, vous pourriez sortir. D'accord? Ça, c'est ce que ceux qui doutent l'assurance du salut vont faire avec ce passage-là. Le problème fondamental, c'est, à mon avis, à mon humble avis, là, c'est que c'est de la très mauvaise exégèse. Ce texte-là ne laisse pas la place pour qu'un homme soit plus fort que Christ, ni moi-même. Ce texte-là affirme la souveraineté de Dieu. Je vous lis le passage. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Le propos de Jésus, c'est de dire, nous, on est souverain. On avait des projets. Puis ceux que Dieu me confie, elles vont venir à moi, elles entendent ma voix, elles vont venir à moi, c'est une certitude. Son argument, le débat qu'il est en train de faire, c'est avec les pharisiens, c'est avec ceux qui s'opposent, puis qui disent, « Ouais, mais comment ça se fait que nous, on ne voit pas en toi le Messie? Comment ça se fait que nous... » Ben, c'est parce que vous n'êtes pas des élus. Le Père ne vous a pas donné à moi, vous êtes des fils du diable, c'est fini là, c'est pour ça que vous ne venez pas à moi. C'est ça l'argument de Jésus dans ces passages-là, de Jean 6, Jean 7, Jean 8, Jean 9, Jean 10. C'est, vous êtes des fils du diable, vous n'êtes pas à moi, c'est normal. Vous ne pourriez même pas comprendre ce dont je suis en train de vous parler. parce que vous n'êtes pas mes élus. Vous ne m'avez pas été confié. Alors, ce passage-là parle de Dieu qui accomplit ses desseins et de laisser la place dans ça pour dire, « OK, Jésus dit, personne ne peut m'enlever de sa main, mais moi, je pourrais sortir. » Fondamentalement, c'est mal comprendre le passage. Peut-être que tu peux aller chercher d'autres passages ailleurs, mais il n'y a pas de place pour ça dans ce passage-là. Christ n'est plus souverain s'il est capable de te protéger de tout le monde, mais toi, tu es plus puissant que Christ. Ce texte-là n'adresse pas la question du libre choix qui dirait, « Non, non, ce n'est pas qu'il est plus puissant que moi, c'est que je suis libre de faire mes choix. » Oui, mais ses ennemis aussi sont libres de faire leurs choix. Puis il est plus puissant que leur liberté. Il est plus puissant que leur liberté pour vous préserver. Question?
Je ne suis pas sûr qu'on va régler ça ici.
Je ne comprends pas vraiment la souveraineté de Dieu. Puis je ne comprends pas ce qu'elle fait dans nos vies. Puis comment on fait pour accepter? Parce que si Dieu est souverain, on n'est pas libre.
Ça, je vais te reporter à la leçon là-dessus. OK? Parce que ça serait vraiment m'engager dans une longue conversation. Le point que je veux faire ici, c'est que ce texte-là ne laisse pas la place pour ça. D'accord? C'est faire de la mauvaise exégèse de commencer à voir ces possibilités-là. Le point de Jésus, c'est clair, c'est « Je suis souverain. » Je vais les garder. Puis je vous le dis, là, elles ne périront pas. Et de dire, elles périront pas si elles ne décident pas de partir, c'est pas là dans le texte. Allez chercher d'autres textes ailleurs si vous voulez. Mais ça va à l'encontre de l'intention même de l'auteur. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ou vous dites, pas convaincu, Yannick? Allez-y. Ça va? Je vais juste vous lire mon paragraphe qui est peut-être plus clair que ce que j'ai mentionné là, en haut de la page 4. Certains ont objecté qu'il n'est pas possible qu'une personne, pour une personne quelconque, de ravir une brebis de la main de Christ. Ceci n'implique pas pour autant que Jésus la gardera contre son gré et que cette dernière ne peut sortir elle-même de la protection de Christ. Cette objection est fondée sur une méprise profonde de l'interprétation du passage. Jésus affirme ici la souveraineté de son Père et la sienne. Il affirme l'élection et la préservation des sauvés. Élection et préservation reposant sur la toute-puissance du Père et du Fils. Alors, celui qui propose que ce passage nous laisse la latitude de croire que la brebis est un mot à dire ici ou le pouvoir de s'opposer à la volonté divine se méprend sérieusement sur le message de Jésus, que Jésus nous livre. Je ne suis pas en train de dire que sur la base de ce passage-là, l'être humain n'a plus de choix à faire. Je ne suis pas en train de dire que l'être humain n'est pas responsable de faire un choix. Tout ce que je dis, c'est que ce verset-là ne me donne pas la latitude pour dire « Ah oui, mais la brebis, elle, par exemple, est souveraine sur ses choix, puis librement, elle peut décider de quitter la protection du Seigneur. » Le texte ne te permet pas de faire ça. Si tu veux aller chercher ça, va le chercher ailleurs. Oui, Stéphane?
C'est des brebis, c'est pas la chèvre de M.
Séguin. Merci, Stéphane. Mais c'est un petit peu quand même ça le point. Je ne suis pas allé dedans, là, mais sérieusement, c'est la dynamique des brebis là-dedans, c'est des brebis qui suivent. Hein. Puis lui appelle, puis les brebis suivent. Ce qui est dit dedans, c'est ce que le Père m'a donné, ils vont venir. Ça finit là, je les appelle, ils vont venir. Il n'y a pas comme beaucoup de latitude pour dire, « Ouais, non, mais celle-là, ça ne tentait pas, elle est partie. » Quand Jésus va parler des brebis dans les évangiles, même celle qui va partir, il va la chercher. D'accord? OK. Oui, Esther.
Tous ceux qui disent « Moi, je cherchais Dieu », on sait dans le fond que personne cherche Dieu puis que c'est Dieu qui attire à lui. Fait que la brebis qui quitte d'elle-même, c'est un peu la même idée que la... Ben, c'est le contraire, mais de la brebis qui dit « Moi, c'est moi qui cherchais. »
Ouais, moi, je ne suis pas en désaccord avec les gens qui disent « Moi, je cherchais Dieu ». Je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas encore lu les Écritures pour pouvoir avoir toutes les catégories parce que... Absolument, sauf que c'est marqué aussi dans la Bible que Dieu attire. Et donc, on voit des gens qui... Regardez Zachée. Essayez de me faire croire que Zachée ne cherchait pas Dieu. Je veux dire, il était grimpé dans un arbre. Il cherchait-tu Jésus, oui ou non? Il cherchait. Pourquoi Paul nous dit « Nul ne cherche Dieu » Parce que vous avez raison, Mme Paradis. Paul nous dit « Nul ne cherche Dieu ». Donc, vous avez raison. Mais Zachée, il est grimpé dans un arbre, puis il cherche Jésus. Moi, je trouve qu'il cherche en titi, là. Il cherche. Et voilà, et voilà. Donc, ce sont les... C'est la compréhension du processus du travail que Dieu fait. Si Dieu n'attire pas un homme à lui, il n'y en a aucun qui va chercher. Mais lorsque l'Esprit commence son œuvre, puis que l'Esprit commence à attirer, bien c'est ça, on voit, Jésus est en train de dire, bien ce qui est arrivé, c'est que Dieu m'avait donné cette brebis-là. Elle a entendu ma voix. Elle a commencé à chercher. Le maître m'appelle, j'entends sa voix, il est où? Ah, il est là-bas. Je m'en vais là-bas, comme une brebis, hein? Elle entend la voix, qui se dirige à partir de la voix. D'accord? Oui.
C'est pour ça que Dieu dit à Paul, va vers les Macédoniens, il dit, parce que j'ai un peuple nombreux. Donc, va parler parce qu'il y a un peuple nombreux. Il y a personne qui ne connaît rien encore, puis il dit, j'ai un peuple nombreux là. Fait, en quelque part, il y a l'élection qui est là. Là.
Maintenant, ça se peut que lorsque Dieu dit ça à Paul, parmi les Macédoniens qui étaient là, il y en a qui soient à différents stades. Et donc, certains d'entre eux étaient en train de se pacter à fraise, puis il n'y en avait aucune piété, aucune crainte de Dieu, puis vraiment, c'était comme zéro. D'autres allaient peut-être à la synagogue tous les samedis. Et donc, ils étaient déjà engagés dans une démarche. Mais tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui va faire que celui qui était vraiment comme, qui ne cherchait pas du tout, comme Paul dit en parlant des païens, puis que celui qui cherchait Dieu par l'œuvre de l'Esprit, vont répondre. Là, j'ai deux, trois commentaires que je vais prendre. Oui. Celui qui me cherche me trouve, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Définitivement. Alors, moi, je vais vous dire, pour comprendre comment ça fonctionne, puis honnêtement, je voudrais pas revenir sur toute l'élection, là, on a passé pas mal de temps sur ça, là, mais il y a la souveraineté de Dieu, il y a ce qui se passe dans l'invisible que nous ne voyons pas, et il y a ce qui se passe dans notre expérience humaine. Lorsqu'on étudie sérieusement les Écritures à travers les années, on arrive tranquillement à placer ces choses-là ensemble. Paul nous aide beaucoup à placer ces choses-là ensemble. D'accord? Alors, ce que Dieu nous dit, c'est, par exemple, Jésus dit, « Je me laisse trouver par celui qui me cherche. » Moi, je trouve que c'est un texte très rassurant parce que lorsqu'il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais est-ce que ma foi est assez bonne pour que je sois sauvé? » Tu sais, j'ai cru, mais est-ce que j'ai la bonne foi? Tu sais, puis est-ce que ça va être assez? On va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais, je veux dire, Jésus dit qu'il ne va pas éteindre le lumignon qui fume encore. Il va se laisser trouver par celui qu'il cherche. Ce n'est pas une question de la qualité de ta foi. Tu es encore dans tes œuvres, là. Tu es encore en train de me dire, toi, tu vas avoir la bonne foi, puis l'autre, il n'y a pas la bonne foi. Fait que c'est ça. Non, non, non. Fais juste le chercher de tout ton cœur. Mais ça, c'est sur le plan humain. Donc, je parle avec mon voisin, puis je lui dis, tu ne cherches pas Dieu. Puis je ne vais pas lui dire, mais fais-toi-en pas. Tu ne pourrais pas le chercher si Dieu ne t'attirait pas à lui, donc cherche-le pas. Non, je vais le confronter avec son choix. Tu ne cherches pas Dieu. Tu as l'attitude d'un impie. Comprenez? Je ne dis pas comme ça, on s'entend. Mais c'est là que je m'en vais dans mon message. Il n'y a pas cette crainte de Dieu. Ça peut arriver des fois, je le dis comme ça, c'est vrai. Mais donc, il y a ces deux plans-là. Il y a le plan de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu est en train d'opérer selon sa souveraineté, et il y a notre expérience humaine. D'accord? Je vais prendre une dernière question, si vous pouvez. Ah, peut-être un commentaire vite, vite, puis on va avancer.
Oui, moi, j'étais athée. Et j'ai passé des heures et des heures dans l'auto à parler à je ne sais pas qui.
C'est pas fort pour un athée. Pas fort pour un athée?
Oui, mais que quelqu'un vienne me dire que je ne cherchais pas Dieu, je ne croyais pas à son existence, mais j'aurais aimé qu'il existe. Mm-hmm. Et puis, je parlais à je ne sais pas qui, le néant. Mais qu'on ne vienne pas me dire que je ne cherchais pas Dieu. Là.
Alors, tu n'aurais pas pu le chercher s'il ne t'avait attiré à lui. Puis si tu parlais au néant, une meilleure définition, ce serait d'être agnostique, plus que athée. L'athée ne va pas parler au néant. Il va parler à lui-même parce qu'il est seul dans l'univers avec lui-même. Mais l'agnostique, il parle au Dieu inconnu, inaccessible, qui ne se révèle pas, puis en disant, c'est poche, j'aurais aimé ça que tu te révèles. Ça, c'est l'agnostique.
Dans Jean 6, je pense qu'il y a quelque chose de puissant. Après que Jésus lui a dit que son corps était de la nourriture, puis son sang c'était un breuvage, en tout cas c'est assez plus fort ce qu'il disait. Mais tout le monde est parti, puis il l'a laissé tout seul. Mais les disciples ont resté. Puis même Pierre, il a dit, Simon Pierre, il a dit, à qui irions-nous? Il dit, tu vois, les paroles de la vie éternelle. T'sais. Puis là, Pierre fait comme, continuer à le suivre avec les disciples. Mais après, Jésus, il dit, « N'est-ce pas moi que vous avez choisi, vous les douze? » Et l'un de vous est un démon. Puis juste avant, il a dit, il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Donné, c'est un don. Il n'y a aucune œuvre là-dedans.
OK, on va avancer. De toute façon, on va répondre à d'autres questions en avançant. Ça va? Dans le développement du sujet. OK, puis évidemment, ben, c'est ça, au milieu de la page 4, juste pour terminer sur Jean 10, je marque, « Enfin, nous ajouterons ceci. Le message de Jésus est que celui qui est donné à Jésus ne périra jamais, qu'il ne sera jamais perdu. » Le message de Jésus, c'est, il s'en va dans le futur, puis il dit, « Ne périra jamais. » D'accord? Il n'y a pas de porte dans ce texte-là pour dire, « À part ceux qui sortent de ta protection. » Non, non, non. Ils m'ont été donnés, je les garde, c'est tout. Je les garde de tous, je les garde d'eux-mêmes, je les garde. C'est très rassurant. Dans le passage suivant, Jésus affirme que celui qui croit au Fils est en possession de la vie éternelle. Non pas qu'il la possédera un jour, mais qu'elle lui est acquise. Bon, c'est Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle. Celui qui croit au Fils est en possession, pas de la vie comme éternelle, mais ponctuelle. T'sais? Pour l'instant, tu as l'éternité jusqu'à ce que tu la perdes. Non, le principe d'éternité, c'est éternel. Je suis en possession, laissez-moi le dire comme ça, je suis en possession de mon éternité. Parce que j'ai Christ. D'accord? Je ne suis pas en possession de mon éternité ponctuelle. Comme aujourd'hui, je suis en possession de mon éternité, demain, je ne serai peut-être plus en possession de mon éternité. Après-demain, je serai en possession de mon éternité. Après-demain, vous comprenez? Je suis en possession de la vie éternelle. Ça nous parle du futur. Comme Jésus nous dit, elles ne périront jamais. Il nous parle du futur. Avec toutes les possibilités de doute dans tout ce processus-là des croyants, puis des up and down, puis tout ça. L'apôtre Paul, avec sa force d'argumentation, présente aussi la permanence du salut et la préservation des saints par Dieu en affirmant que Dieu achèvera l'œuvre commencée. Ceux qu'il a prédestinés, dans Romains 8, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est Dieu va faire, c'était des desseins éternels, Dieu va les mener à terme. Et c'est ça tout l'argument de Paul. Paul est en train de dire, soyez pas surpris les Juifs, si l'on s'en va vers les païens, paniquez pas si vous voyez que vous avez crucifié le Messie, paniquez pas si vous avez marché avec le Temple pendant des années, puis des sacrifices, puis là, tout d'un coup, on vous dit pas besoin. Non, non, c'était les desseins souverains de Dieu. Dieu avait tout planifié ça, puis Dieu est en train de dénouer toute cette histoire-là merveilleuse. Puis, by the way, vous êtes là-dedans. Vous avez été élus, vous avez été appelés, vous avez été justifiés, vous avez été glorifiés. D'accord? Alors, tout ça nous parle encore une fois de la souveraineté de Dieu, Dieu qui accomplit ses desseins. Ça nous parle d'une permanence du salut. Évidemment, la présence de l'Esprit-Saint en nous, la manière, le langage qui est utilisé lorsqu'on parle d'être scellé de l'Esprit, c'est cette idée de garantie qui nous fait référence aussi aux prophéties de l'Ancien Testament où l'Éternel avait dit qu'un jour viendrait où il donnerait son Esprit et il ne retirerait pas son Esprit. D'accord? Ça, c'est le passage suivant, Éphésiens 1, 13, 14. Enfin, Paul affirme tout comme Christ, la souveraineté de Dieu dans cette œuvre, déclarant que Dieu terminera son œuvre. Alors, dans Philippiens 1, 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Maintenant, c'est pour ça que je suis plus à l'aise avec l'expression la persévérance, soit la persévérance finale des saints ou la persévérance des saints. Seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont vraiment nés de nouveau. Donc, on n'est pas en train d'annoncer quelque chose où on dit, tu crois, tu t'assois sur ton steak, puis tu devrais être en paix parce qu'un jour, tu as rempli une petite feuille après une croisade d'évangélisation de Billy Graham. Tu sais, tu t'es avancé, tu as répondu à un appel à l'hôtel, un altar call, puis bing, c'est réglé. Maintenant, ta vie peut être une vie de débauche, t'es correct. Tu sais, c'est pas ça qu'on est en train de dire du tout, du tout. On est en train de dire que ceux qui ont été sauvés vont porter, vont avoir des évidences de leur foi tout au long de la vie. Parce que ce que Dieu s'est engagé à faire, c'est à préserver. Donc, Dieu va supporter leur foi jusqu'à la fin. Et c'est dans ce sens-là que le Nouveau Testament va. Si le Nouveau Testament affirme que ceux qui sont sauvés persévéreront jusqu'à la fin et auront la vie éternelle, elle affirme que cette persévérance sera opérée par la puissance de Dieu pour garder notre foi. Voici ce que Pierre déclare. « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Je vous le relis, c'est un passage important. « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, c'est Dieu qui vient opérer par sa puissance le soutien de votre foi jusqu'à la fin pour vous garder. Alors, quelqu'un qui fait profession de foi, qui s'éloigne de l'Église, qui n'a plus de témoignage chrétien, ne devrait surtout pas avoir l'assurance de son salut. Au contraire, tout ce qu'il est en train de nous dire, c'est probablement, bonhomme, tu es une des trois premières terres dans la parabole des quatre terres. C'est ça que tu es en train de dire. Tremble. Tremble, parce qu'aujourd'hui, tu marches comme un païen. Fait que probablement que tu étais une des trois terres. Paul va jusqu'à dire, ça Grudem ne l'abordait pas, puis je n'ai pas pris le temps de le développer. Paul va jusqu'à dire, de toute façon, si c'est un élu, ça se peut qu'il meure bientôt, puis que Dieu vienne le chercher. Ou bien il va revenir. Mais Dieu ne laissera pas ça aller indéfiniment comme ça. Dieu va châtier. Et ça se peut que ce soit par la mort. Il vient de le chercher. OK, mais attends, tu ne veux pas marcher comme il faut. OK, huit, au ciel, c'est réglé. C'est ce que Paul dit, d'accord? Courte.
J'aimerais savoir par rapport à ça, où se situe la sanctification? Puis, si je meurs aujourd'hui, est-ce que c'est parce que ma sanctification est terminée?
J'ai adressé ça la semaine dernière dans la sanctification. Si tu veux lire les notes, si tu meurs aujourd'hui, c'est pas parce que ta sanctification est terminée. C'est parce que le Seigneur a décidé qu'il s'en venait te chercher. Et il n'y a pas... c'est parce qu'il y avait... Il dit, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Non, mais on ne voit pas dans le Nouveau Testament l'idée qu'il faut avoir atteint un degré avant que Christ vienne nous chercher. Pas du tout. D'accord? On voit qu'on est dans un processus de transformation tout au long de notre vie. Mais tantôt, par exemple, je vais revenir sur la sanctification comme une des évidences du fait qu'on est sauvé. Restez avec moi, Stéphane a lâché sa joke. Merci, Stéphane. Yannick, reste avec moi. Dieu ne nous garde pas indépendamment de notre foi, au contraire, il fortifie et préserve notre foi, nous rendant capables de ne point défaillir dans notre foi jusqu'au bout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des up and down, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de doute, on vit tous des moments de doute, c'est pas ça la question. Nous bronchons tous de plusieurs manières, nous dit Jacques, c'est clair, ça c'est clair. Mais je suis au haut de la page 5, mais ceux qui sont sauvés, Dieu va soutenir leur foi pour qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. D'accord? Ainsi, les apôtres s'adressent aux chrétiens et les exhortent à persévérer dans la foi, conscients qu'un certain nombre de professants ne sont pas nécessairement chrétiens. Car les apôtres, comme chacun de nous aujourd'hui, ne pouvaient juger les cœurs. Alors, il leur dit, si vous persévérez, vous êtes un élu. Si vous êtes sauvés, si vous persévérez, c'est vrai. Comprenez? Parce que Jean va dire, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, lorsque je suis en train de m'adresser à l'Église, je voudrais pas prêcher un évangile qui dit « Si tu as cru, tu n'as pas porté de fruits, sois confiant, ton éternité est assurée. » Non, ça ne concorde pas du tout avec le Nouveau Testament. Si tu as cru, tu vas voir les évidences de la grâce dans ta vie qui va commencer à te transformer. Et ça va faire partie des éléments qui rassurent ton cœur. Et si tu ne vois pas d'évidence de cette œuvre de la grâce dans ta vie, tu devrais aller dans la prière. Tu devrais dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non pas est-ce que j'ai perdu mon salut, mais est-ce que je me suis fait des accrocs? Parce que là, donne-moi la grâce de me repentir. Il faut que je marche avec toi. Je veux voir encore l'œuvre de ton esprit dans mon cœur, dans ma vie. Parce que ça fait partie des éléments qui vont me rassurer. Alors, ce que les apôtres font à plusieurs reprises, c'est qu'ils s'adressent à toute l'assemblée. Puis ils disent, effectivement, vous êtes sauvés si vous gardez la foi. Ailleurs, ils vont expliquer que c'est Dieu qui donne la foi et c'est Dieu qui préserve. Mais à l'individu à qui je parle, qui est en train de s'éloigner, je ne vais pas essayer de le rassurer avec quelque chose de faux. Je ne vais pas essayer de lui dire, regarde, tu as cru, tu es correct, mon homme. Non du tout. Si tu ne vois pas l'évidence de la grâce dans ta vie, peut-être que tu es juste une des trois premières terres.
C'est ce que fait Jacques en disant, si tu dis que tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, bien, tu n'as pas la foi, tout simplement.
Il doit y avoir des fruits. Okay? Tout à l'heure, on va en parler. Comment est-ce qu'un chrétien peut s'affermir dans la conviction qu'il est sauvé? d'accord, pour pouvoir profiter, apprécier cette doctrine qui nous dit que Dieu va soutenir celui qui a sauvé. Un des éléments, ça va être justement les évidences de la grâce dans ma vie. D'accord? Mais ça, j'y viens, Dieu voulant, dans quelques instants. Hébreux 3,14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » C'est l'évidence, c'est une évidence que je suis participant de Christ lorsque je persévère jusqu'à la fin. Et puis, Jean, qui donne l'explication simple, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » D'accord? Alors, celui qui quitte et qui abandonne et qui ne revient jamais, selon toute probabilité, c'est quelqu'un qui faisait partie des trois premières terres, parmi les quatre terres, d'accord, dans la parabole de Jésus, tout simplement. Puis Jean dit, on n'a pas à se troubler de ça. C'est important que ces choses-là arrivent. C'est beaucoup plus important. Dans un sens, c'est préférable que quelqu'un qui est religieux et qui n'est pas vraiment converti, qui fréquente l'Église, c'est préférable qu'il s'éloigne plutôt qu'il reste dans l'Église pendant 30 ans, qu'il meure et qu'il se présente devant Dieu en disant, « Ouais, mais j'étais servant de messe, moi. » Vous comprenez? Ah, j'étais diacre à l'Église évangélique de l'Espoir. J'étais un ancien. C'est sûr que je suis sauvé. Non. Non. Fait que, dans un sens, c'est préférable. Et lorsque vous voyez des gens qui s'éloignent, c'est pas simplement qu'on essaie de se rassurer, puis de rationaliser, puis de dire, « Ah, c'est bon, ils vont aller goûter l'amertume de la vie pour après se revenir. » C'est vrai. C'est vrai, vous ne voulez pas que quelqu'un qui est peut-être pas clairement au Seigneur reste dans l'Église puis qui pense qu'il est en sécurité juste parce qu'il va dans une église baptiste ou une église évangélique tous les dimanches. On veut pas ça. On veut pas ça. On voudrait pas qu'il aille se river le nez dans le monde puis qu'il aille se faire mal puis souffrir. On voudrait pas ça non plus. Mais ce qu'on veut, c'est le salut de leur âme, premièrement. C'est... Ceux qui se détournent de Christ peuvent afficher de nombreux signes extérieurs de la conversion. Le Nouveau Testament affirme à plusieurs reprises que des gens évolueront un certain temps, voire toute leur vie au sein d'une église locale, sans pour autant être véritablement chrétiens. C'est clair, Jésus le dit, les apôtres le disent, c'est très, très clair. Et il est très clair à la lumière du témoignage du Nouveau Testament qu'il n'est pas toujours aisé de discerner lorsque des gens ne sont pas véritablement sauvés. En effet, nous irons jusqu'à dire que le mandat de l'Église n'est pas de poursuivre et chercher en son sein celui qui n'est pas chrétien. Qui n'est pas chrétien? Mais plutôt d'enseigner fidèlement l'Évangile, d'encourager la manifestation du fruit de l'Esprit dans la vie des croyants, reprenant le péché et corrigeant. Donc, il y a des gens qui sont au milieu de nous, qui n'ont pas saisi l'Évangile. Peut-être qu'il y en a ici ce matin dans le cours, d'accord? Vous êtes là, tout ça, puis notre mandat à nous, c'est pas de commencer à chercher puis aller tester chacun. La vie normale d'une église en santé va faire ce travail-là. Et donc, on prêche l'Évangile, on annonce l'Évangile, on annonce les implications de l'Évangile dans votre vie. Et à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui arrive puis qui dit, « Mais Yannick, je suis pas capable, c'est trop lourd cette affaire-là, j'ai juste le goût d'abandonner. C'est des devoirs par-dessus des devoirs, par-dessus des devoirs, par-dessus des devoirs. » Puis là, tu jases avec la personne, tu la fais parler, puis là, tu dis, « Mais t'as jamais saisi la grâce. » C'est insupportable d'être chrétien si t'as pas saisi la grâce. C'est épuisant, c'est fou. Regarde le gars qui est en avant, lui, il est en feu, puis il nous en met, il nous stack ça, ses épaules, il empile un par-dessus l'autre, les devoirs qu'on a à faire, tu sais. Si t'as pas saisi la grâce, oublie ça, je veux dire, c'est insupportable. Tu veux quelque chose de cosy où on va juste te réconforter le dimanche matin, puis te dire, tout est beau. Allez en paix, comprenez? Donc, le travail de l'Église, c'est pas de poursuivre chacun. Oui, on a des moments où on examine. On essaie de le faire le plus adéquatement possible lorsqu'on prépare quelqu'un pour le baptême, mais évidemment avant ça. On le fait aussi lorsqu'on prépare quelqu'un à devenir membre de l'Église. Donc, ce sont des moments où individuellement on va le faire. On vous invite à vous joindre à des petits groupes. Si vous n'êtes pas dans des petits groupes, vous n'êtes pas en relation étroite avec des chrétiens pour que votre vie puisse avoir un impact sur les autres et que la vie des autres puisse avoir un impact sur vous. Il y a des choses qui peuvent rester là pendant des années. D'accord? Pendant des années. Puis, vous arrivez à tenir la façade. Mais je veux dire, il y en a plein de religions où les gens ont de l'air très bien. Il n'y a pas plus agréable dans bien des contextes qu'un témoin de Jéhovah. D'accord? C'est une religion. où l'Évangile n'est pas présente, la grâce n'est pas là. La grâce qui sauve n'est pas là. Pourtant, ça peut être des gens super agréables, puis qui ont de l'air super bien, puis super fin, puis tout le kit. T'sais. Donc, tu peux faire un bon bout de chemin. Un bon musulman qui n'est pas extrémiste, c'est quelqu'un d'hyper sympathique, hein? Très respectueux, très, très respectueux des autres. Là. Une religion sans l'Évangile. Donc, c'est quoi le mandat de l'Église? On annonce l'Évangile, on prêche les implications de l'Évangile constamment, on vous invite à mettre vos dons au service de l'Église, à ce que les évidences de la grâce dans votre vie soient manifestes. On reprend, on corrige. Et à travers le processus, Dieu va manifester des choses. Mais il demeure important de réaliser que des non-chrétiens évoluent depuis toujours au sein de l'Église. Certains animés de mauvaises intentions, mais la majorité s'appliquant simplement à pratiquer une religion sans avoir placé leur foi véritablement en Jésus-Christ. Alors, les églises évangéliques aux États-Unis, c'est presque aussi nombreux que les églises catholiques. Oui, Hélène. Puis, il y a plein de gens là-dedans qui sont des nominal Christians, comme on dit.
Où est-ce que tu situes la personne qui vraiment démontre, par ses œuvres, qu'elle est sauvée, qu'elle porte fruit, qui enseigne même la bonne nouvelle, puis tout d'un coup disparaît? Puis refuse tout. Puis elle disparaît vraiment de la carte, là. Abandonne tout, sa famille et tout. C'est pas quelqu'un là qui voit le message qui est beau et tout, là. Il l'a vraiment approprié. En tout cas, il semble d'extérieurement par tout le monde qu'il l'a approprié. Il le proclame. Puis d'un coup, tout disparaît.
OK. C'est une excellente question. Puis on l'adresse tout de suite, là. Ce qui est clair avec Jésus, ce qui est clair dans les lettres des apôtres, c'est qu'on peut aller très, très loin pour se faire croire et faire croire aux gens qu'on est chrétien. Ça, c'est clair. Donc, ma réponse simple à ta question, c'est certains d'entre eux, ce sont des chrétiens qui se sont éloignés et ils reviennent. D'accord? Des fois, c'est des chrétiens qui ont été dans l'Église, on a regardé aux dons des gens, on a regardé aux talents des gens, puis on les a élevés. Boum! Puis là, ils étaient jeunes dans la foi, puis Paul dit, il ne faut pas faire ces choses-là parce qu'ils vont s'enfler d'orgueil, puis ça va être une occasion de chute, mais peut-être qu'ils sont vraiment chrétiens, puis là, ils prennent une débarque, puis finalement, ils vont revenir à l'Église, ils vont revenir à la foi, mais par la porte d'en arrière tranquillement, puis pendant des années, ils vont rester très inactifs dans l'Église. On a regardé ce qui frappe les yeux, on les a mis en position trop tôt, puis on les a brûlés. Dans certains cas, c'est ça. Dans d'autres cas, ce ne sont pas des enfants de Dieu, tout simplement. Et là, les passages vont vous revenir simplement au fur et à mesure que je vais vous les mentionner, mais pensez à Judas. Je veux dire, Judas, c'est quand même pas rien, là. Ça serait très, très, très surprenant que Judas n'ait pas fait de miracle. Ça ne marcherait pas. Il serait revenu en disant, « Hey, les boys, vous avez tous réussi, mais moi, ça ne marche pas. » Ça marche pas. Fait qu'il serait revenu en disant, wow, il y a de quoi qui marche pas. Donc, Judas fait des miracles. De toute évidence, Judas fait des miracles. Puis en fait, Jésus nous le dit lui-même. Jésus, il dit, lorsque je vais revenir, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Puis certains vont dire, oui, mais on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Wow, on commence pas mal à s'approcher du bonhomme qui se tient en avant. Tu sais. Fait que depuis que je suis dans le ministère, dans notre association, j'ai vu personnellement environ 6 ou 7 pasteurs. Puis, 2 ou 3 d'entre eux, là, c'était presque des amis. Là. C'est des gars avec qui j'ai fait beaucoup de cours, puis je les connaissais assez personnellement. Le dernier, c'était le gars le plus actif dans l'association pour nous aider à trouver des nouvelles manières de faire l'évangélisation avec un cœur pour l'évangélisation. Puis, du jour au lendemain, il nous apprend, « Oh, je quitte ma femme, on n'est pas bien ensemble, tout ça. » Puis, quelques mois après, on apprend, « Oh, il est avec une autre femme, puis tout, il n'est plus là. » D'accord? Fait qu'humainement, là, tu te dis, mais c'est quoi, Seigneur? Et où ta puissance? C'est quoi qui se passe? OK, on retourne ici, là. Jésus nous dit qu'on peut aller très, très loin là-dedans. Et on peut se faire croire bien des affaires. Puis on peut faire croire aux gens bien des affaires. D'accord? Et donc, ce sont des leaders, ce sont des chefs qui se plantent et qui semblaient faire des choses. D'accord? Je vais continuer parce que je n'arriverai pas à couvrir mon message. Je m'excuse. Je vais essayer de ne pas prendre d'autres questions, puis peut-être les prendre après si vous voulez. Donc, Judas. Et puis, ça va plus loin que ça. Jésus le dit, tout à l'heure, Sylvain l'a cité, dans Jean, au bas de la page 5. Jésus leur dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Conclusion, 1 + 1, ça fait 2. Jésus affirme lui-même qu'il s'était choisi un traître parmi les 12. C'est ça la conclusion. Là. C'est lui qui l'a choisi. OK, tu t'es choisi quelqu'un qui était au service du diable pour faire partie des 12. Hein? Fait que, ça, c'est de la souveraineté entité. Mais donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que lorsqu'il y a un pasteur qui a été pasteur pendant des années, qui prend des bacs, qui après ça démontre par sa vie finalement qu'il n'a jamais été chrétien et qu'on ne comprend rien, on n'arrive rien à s'expliquer, nous n'avons pas à remettre en question la souveraineté de Dieu. On n'a pas à commencer à se dire « Oh, pas, oh, Seigneur, tu étais distrait sur ce coup-là. » Là. Non, non, c'est Christ qui bâtit son Église. Oui. Pas parce qu'il prend des râpes qu'il n'est pas sauvé, peut-être qu'il n'était pas à sa place, peut-être que c'était trop tôt, peut-être que son cœur s'est éloigné, puis Dieu a exposé son cœur pour montrer de la duplicité dans son cœur, de l'hypocrisie, puis il va revenir, mais il ne sera plus pasteur, il va faire d'autres choses. Fait que ça aussi, c'est possible. Dans certains cas, la suite de leur vie semble, de toute évidence, indiquer que finalement, l'Esprit de Dieu n'a jamais été là. Quand ça dure, ça dure, ça dure, puis tu le vois, c'est comme ça. Oui, oui, c'est les quatre terres. Judas avait un choix à faire. Je ne reviens pas sur la question du choix de chacun, d'accord? Parce que c'est une question complexe, la question du fait que Dieu choisit, puis que l'individu fait des choix. Mais Judas, nulle part dans le processus, a dit « mais Dieu, pourquoi m'as-tu fait ce mauvais coup? » Jamais. Il n'a jamais eu cette attitude dans son cœur. C'était ses choix à lui. Oui, oui. Et c'était selon tous les plans de Judas. D'accord? C'est Judas qui avait fait ces plans-là. Mais en même temps, c'était dans les plans souverains de Dieu. L'apôtre Paul parle, quant à lui, de faux frères qui viennent parmi l'Église pour détruire. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier les libertés que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alors là, il parle de ceux qui viennent puis qui voulaient comme aller détruire l'Évangile dans son fondement en ramenant la loi. Et donc, qui découvrent la liberté que l'Évangile apporte dans cette religion qu'eux autres pratiquaient puis ils disent non, non, ça ne marchera pas de même. Il faut garder ça dans le carcan où on était. Ça prend ça. C'était même pas des vrais juifs, si je peux dire, d'accord? Ces gens affichaient tous des signes extérieurs qui portaient, je suis au haut de la page 6, à croire qu'ils étaient véritablement des disciples de Jésus-Christ. Mais ils n'en étaient rien. Jésus lui-même dénonce cette situation avec une déclaration pour le moins surprenante. Je l'ai dit tantôt, c'est dans Matthieu 7, lorsqu'il dit, écoutez, c'est pas parce que vous avez fait des prophéties en mon nom, mais je veux dire, un âne aurait pu le faire. Est-ce que ça veut dire que c'est un élu de Dieu? Non, c'est un âne, c'est tout. Mais regardez la conclusion de Jésus dans ce passage-là, je l'ai souligné. « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Jésus ne dira pas à ces gens-là, « Je t'avais choisi, je t'avais amené, mais tu es sorti de la protection de ma main. » D'accord? Jésus ne va pas dire à ces gens-là, « Je t'avais tout donné, pourquoi as-tu renoncé à tout ce que je t'avais donné? Donc, tu as perdu ton salut. » C'est pas ça qu'il va leur dire. Il va leur dire, « Oui, je sais que vous étiez dans l'Église, je sais que vous avez trompé plein de monde, je sais que vous avez fait plein de choses. » Mais moi, je ne vous connais pas. Fait que sortez d'ici. D'accord? C'est ça qui va se passer. Okay? Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur salut, là. C'est des gens qui n'ont jamais été sauvés et qui, humainement, ont réussi à berner plein de monde. Peut-être même eux-mêmes pendant un bon bout de temps. Mais il y a des choses. Tu sens dans ton cœur l'hypocrisie profonde, le mensonge qui est là, puis tu continues à jouer cette game-là. D'accord? Qu'est-ce qui peut nous donner une assurance authentique aux croyants? J'aurai probablement pas le temps de terminer ça, mais je veux vous encourager à prendre le temps de finir de le lire. D'accord? C'est important. La doctrine de la persévérance des saints est une doctrine importante qui nous aide à apprécier la beauté de l'Évangile. Quand je ne saisis pas ça, il y a un aspect de la richesse de ce que Christ a accompli que je ne possède pas. Ça manque à votre adoration, ça manque à votre paix, ça manque à votre repos spirituel de savoir que c'est lui qui va vous soutenir. Alors, je vois là avec les questions, je n'aurai pas vraiment le temps de passer tout au travail. Je vous encourage fortement à prendre le temps de le lire. S'il est possible pour un non-chrétien d'évoluer longtemps, voire toute sa vie au sein d'une église locale, qu'est-ce qui peut rassurer un vrai chrétien de son propre salut? Se pourrait-il que celui qui estime sincèrement être un vrai chrétien se berne lui-même? Comment avoir une certitude quelconque? Alors, je vais vous donner une réponse peut-être inquiétante qui devrait vous pousser à lire davantage si ça vous inquiète. Nous dirons premièrement qu'il est possible, en effet, de nous tromper nous-mêmes, croyant que nous faisons partie de la famille de Dieu sans en être vraiment. J'ai le goût de vous dire, Paul était ça. Je veux dire, Paul était convaincu qu'il était un vrai juif qui s'en allait vraiment dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Christ lui dise « Non, mais tu comprends pas, là. » Tu es en train de me persécuter, tu es en train de passer à côté de ton Messie, mon homme. D'accord? Donc, c'était quelqu'un qui était, et lui-même l'a dit, qui était très sincère dans sa démarche. Sincère dans ses meurtres, sincère dans ses persécutions. Sincère. Donc, est-ce que c'est possible de se berner? Oui, c'est possible. Mais en même temps, il n'y a pas de place dans les Écritures pour qu'il y ait quelqu'un qui se remette en question, qui cherche, qui doute de lui-même et à qui Dieu dirait, « Mais je sais que tu m'as cherché, mais ça ne me tentait juste pas, je ne te mets pas à face. » Tu comprends? Il n'y a pas de place pour ça. À celui qui cherche, Dieu va se révéler. Donc, si vous avez des doutes sur votre salut, criez à Dieu. Dieu ne va pas dire, « Ah, ben gars, je sais, toi, t'aurais aimé ça. » Il n'y a personne, laissez-moi le dire comme ça, C.S. Lewis l'a formule autrement, je trouve qu'il va un peu loin, mais il n'y a personne qui va arriver devant Dieu et qui va dire, « Seigneur, j'ai toujours voulu aller au ciel pour l'éternité avec toi, puis toi, tu m'envoies un enfant. » Il n'y a personne qui va pouvoir dire ça. D'accord? Leur cœur va être dévoilé, et ce qui va être dévoilé, c'est qu'ils ne voulaient pas servir Dieu. Donc, si vous êtes dans un doute par rapport à votre salut, puis vous dites, « Oui, mais est-ce que je me berne moi-même? » C'est bon. C'est correct pour un temps de faire ça. C'est correct d'aller vers les Écritures. Peut-être que dans le fond, vous avez un péché dans votre vie qui traîne, puis puisque vous n'avez jamais la victoire sur ce péché-là, puis ça traîne en longueur, ça traîne en longueur, ça sape votre énergie spirituelle. Il y a toujours cette espèce d'affaire-là qui traîne, puis Dieu voudrait que vous l'adressiez, vous ne l'adressez pas, vous laissez ça traîner, puis à un moment donné, vous avez comme le feeling d'être tellement charnel, mais c'est peut-être parce que vous êtes tristé d'esprit depuis un bout de temps, puis effectivement, il est en train de vous dire, gars, tu penses que je vais te donner la paix, la joie, le bonheur, puis tout ça, puis toi, tu es là, puis tu laisses traîner cette affaire-là dans un coin. Non, non, non. Non, non, moi, je veux tout le temple. Autrement, ça se peut que je m'attaise un peu. Donc, peut-être que c'est ça, d'accord? Alors, si vous avez comme des doutes pendant un temps, c'est pas malsain, au contraire, ça peut être très utile. Mais en même temps, de pousser ces doutes-là jusqu'à dire, « Oh, mais Seigneur, tu sais que je voudrais être sauvé, puis je te cherche, mais peut-être que tu ne me donneras jamais la foi qui sauve. » Il n'y a pas de place pour ça. Dieu est plus bon que ça. Ça, c'est très, très clair. Oui, oui. Et puis Dieu se révèle à celui qui cherche. Puis toute l'illustration dans Matthieu qui est liée juste à la prière, lorsqu'il dit « Vous qui donnez, vous ne donnerez pas une roche à votre enfant qui demande un pain du poisson », dans Luc, l'application complète, c'est par rapport au salut. C'est par rapport à la vie éternelle. D'accord? Regardons à présent certaines questions que le chrétien peut se poser pour affermir son assurance, l'assurance de son salut. Je m'excuse, j'ai mal formulé ma phrase. « Ai-je confiance en Christ aujourd'hui pour mon salut? » La réponse la plus probante, la question la plus importante à vous poser pour savoir si vous êtes sauvé, c'est est-ce que aujourd'hui, si je vous prêchais l'Évangile, est-ce que vous l'acceptez? Si vous l'acceptez, vous êtes sauvé. Si c'est la première fois que vous l'entendez, moi, je prendrais le temps de vraiment l'accepter. Mais vous comprenez, si vous avez toujours entendu l'Évangile depuis 3, 4, 5, 10, 15 ans, puis vous marchez dans la foi, puis là, vous avez des doutes. Mais si je vous prêchais l'Évangile aujourd'hui, est-ce que vous l'acceptez? Oui, vous avez l'Esprit de Dieu. À celui qui n'est pas de Dieu, c'est impossible de faire ça. D'accord? Alors, aujourd'hui, ma confiance pour mon éternité, je veux aujourd'hui la placer en qui? En Christ. Tu es sauvé. C'est un fruit de l'Esprit, c'est clair. C'est clair, clair, clair. C'est une œuvre de l'Esprit. Tu ne peux pas faire ça par toi-même. Oui, très rapidement, en fait.
Quand j'étais dans Gibec, à un moment donné, j'ai eu des doutes sur mon salut. Puis là, le chef d'équipe, il dit, ben, tu ne peux pas venir faire de l'évangélisation avec nous si tu as des doutes. Il dit, reste ici, puis réfléchis, prie, puis on en reparlera après. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai pris le plan du salut que je me suis prêché à moi-même, point par point. Puis je me suis tout questionné, est-ce que j'y crois aujourd'hui? Est-ce que j'y crois aujourd'hui?
Puis tu as fait un appel, puis tu t'es avancé.
Non. C'était oui, puis à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de douter de mon salut.
C'est ça, c'est excellent. Alors, ai-je confiance en Christ aujourd'hui pour mon salut? Je vous laisse lire ça. Existe-t-il des preuves de l'œuvre de régénération du Saint-Esprit dans mon cœur? Alors, je vous en donne plusieurs, d'accord? Premièrement, le témoignage de l'Esprit en nos cœurs. Est-ce que j'ai cette conviction dans mon cœur que Dieu est mon Père? D'accord? Est-ce que je sens en moi-même que je suis un enfant de Dieu? C'est subjectif, vous allez me dire. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça que Dieu s'y prend de différentes manières. Paul nous parle aussi du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire est-ce que les vertus qui ressemblent à Dieu, les vertus de Dieu sont en train de croître en moi. L'Esprit de Dieu cherche à produire ça dans les enfants. Il n'y a personne qui va être parfait, mais j'observe cette croissance dans les vertus qui vont m'amener de plus en plus à être à l'image de Christ. La persévérance, excusez-moi, un autre fruit de l'Esprit, pourrait-on dire, est l'impact de notre service, de notre ministère dans l'Église. Jésus dit que celui qui est attaché à lui va porter du fruit, non seulement dans son caractère, mais c'est clair, avec Jésus, ça devient très, très pratique. La manière que je me comporte avec les pauvres, la manière que je me comporte avec les frères, le fait que je suis en train de servir. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a une évidence de l'œuvre de l'Esprit dans ma vie qui se manifeste à cet égard? La persévérance dans la foi et la soumission à l'enseignement biblique. Alors là, ce que je suis en train d'adresser ici, c'est ceux qui ont cru dans l'Évangile et puis qui, 2, 3, 4 ans après, partent après une mode, suivent une fausse doctrine. Ils avaient cru dans ce qui était clair, qui était vrai, qui était biblique. Puis là, ils commencent à dériver pour s'en aller sur une fausse doctrine. D'accord? Les apôtres nous disent que celui qui garde le véritable Évangile est un enfant de Dieu. D'accord? Alors, des fois, on est pointilleux. La semaine dernière, j'ai eu une longue conversation avec des gens qui enseignent l'Évangile de la prospérité. Si tu crois en Jésus, il va guérir ton corps, il va guérir ton compte de banque, il va guérir tes projets, ça va aller comme ça. Ça, c'est l'Évangile de la prospérité. C'est une fausse doctrine qui vient attaquer l'Évangile dans son fondement. D'accord? Donc, c'est une discussion très, très difficile. Si j'étais le pasteur de ces gens-là, je les amènerais. Évidemment, si j'étais le pasteur de ces gens-là, j'enseignerais une fausse doctrine. On s'entend. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'avais l'occasion d'avoir un vrai ministère envers eux, je les amènerais à se questionner sur leur compréhension de l'Évangile, éventuellement leur salut. Une relation intime avec Jésus. Alors, Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Notre intimité, notre communion avec Christ, notre désir d'obéir à Christ, c'est une autre évidence du fait qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Enfin, en terminant, l'obéissance à la parole de Dieu et la foi en Jésus-Christ demeureront toujours les deux preuves les plus probantes, rassurantes pour le chrétien. Alors, dans 1 Jean 2, Jean il dit, si tu dis que tu es un enfant de Dieu puis que tu vis dans le péché et que tu n'es pas en train de marcher avec Dieu, tu ne devrais peut-être pas être si sûr que ça dans ton cœur. D'accord? Alors moi, je vous dirais les deux plus évidents. Aujourd'hui, si j'ai accepté l'Évangile, c'est quoi la disposition de mon cœur? Et deuxièmement, est-ce que généralement, j'ai un cœur qui cherche l'obéissance à Christ? D'accord? Et si je n'ai pas ces choses-là, c'est une bonne occasion de me remettre en question. C'est une bonne occasion de revenir à Christ en courant. D'accord? Est-ce que je discerne un schéma de croissance à long terme, qui est la question de la sanctification? Je pensais la développer davantage. Est-ce que je vois, quand je regarde en arrière, ce processus de transformation? Et je vous avoue, personnellement, là, ça fait comme 20 ans là, que je suis au Seigneur. C'est très rassurant pour mon cœur, pas seulement de regarder dans le passé, parce que des fois, tu parles avec des gens, puis ils te parlent du début de leur vie chrétienne, puis ils sont juste dans l'histoire du passé. Moi, je m'inquiéterais à leur place et j'ai tendance à leur dire, « Oui, mais l'évidence de la grâce aujourd'hui dans ta vie, parce que les 3 premières temps de la parabole de Jésus portaient beaucoup de fruits au début aussi. » Fait que encore aujourd'hui, mais quand même, c'est une bénédiction pour moi de regarder ce que Christ a accompli en moi à travers les années. Mon épouse et moi, puis 2-3 personnes savons qu'il en reste encore beaucoup à faire. Mais quand même, on peut regarder en arrière, et mon épouse aussi peut dire, Christ t'a transformé, Yannick. D'accord? Je vous laisse avec une question pratique, je vous invite à la lire. Je vous laisse avec un des plus beaux passages pour la foi d'un chrétien, Jean 10, 27, 28, à mémoriser. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, ce que tu as accompli pour nous est incomparable. Non seulement, Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as attirés à toi, non seulement, Seigneur, tu as sacrifié ta vie sur cette croix pour le salut de mon âme, Seigneur. Mais en plus de cela, tu as engagé ton nom, ta parole, Seigneur, à me soutenir, à me supporter, à me préserver, Seigneur. Seigneur Jésus, ma confiance pour l'éternité n'a jamais reposé sur moi-même. Elle n'a jamais reposé sur mes œuvres pour être sauvée et elle ne repose pas non plus sur ma persévérance. Ma confiance pour l'éternité, Seigneur, repose sur toi et sur le fait que toi, tu es fidèle alors que moi, je suis si souvent infidèle. Et je veux te bénir, Seigneur, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Je veux te bénir pour cette transformation que je vois que tu opères dans ma vie. Je veux te bénir, Seigneur, de ce que je vois depuis quelques années, une belle œuvre puissante qui m'encourage dans ma propre vie, Seigneur. Et ça, c'est précieux. Alors, j'aimerais te prier pour chacun ici. Dans ta grâce, Seigneur, que personne ne se rassure avec une religion quelconque sans avoir été touché par l'Évangile. Et dans ta grâce, Seigneur, que ceux qui peuvent avoir des doutes puissent aller raffermir leur assurance en se repentant s'il y a lieu, Seigneur, et en s'appuyant sur toi plutôt que sur leur performance, s'ils ont simplement besoin de comprendre combien tu es puissant pour nous préserver. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci. Alors, la semaine prochaine, je vous invite à être là, c'est le spectacle des enfants. La semaine suivante, on termine avec un dernier aspect du salut. Merci.